J'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Napoléon à Golfe-Juan, 1er mars 1815. Ans d'histoire. De toutes les campagnes de Napoléon, ce fut sans doute la plus belle, celle qui, en 1815, lui a permis en 20 jours à peine et sans faire couler une goutte de sang, de reconquérir la couronne qu'il avait perdue un an plus tôt. Cette couronne reconquise, il ne la gardera que 100 jours. Mais sans eux, sans ce qu'on a appelé le vol de l'aigle, qui en mars 1815 l'avait conduit de Golfe-Juan à Paris, sans la bataille de Waterloo 3 mois plus tard, la légende napoléonienne aurait été incomplète. Car on voit mal celui qui avait régné sur la moitié de l'Europe finir ses jours en gouvernant une île de la taille d'un département français. L'île d'Elbe, dans laquelle Napoléon avait été envoyé en 1814, après avoir été contraint d'abdiquer à Fontainebleau.
Sire, les Cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication. Abdication dont voici les conditions.
J'ai pas besoin de lire ça pour savoir qu'elles sont inacceptables.
On vous enjoint de quitter la France. Cependant, on vous accorde la souveraineté de l'île d'Elbe. C'est au large des côtes italiennes.
Je connais. Un caillou. Napoléon Ronald Caillou. Grotesque.
Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est par cette première abdication de Napoléon à Fontainebleau en 1814 que commence le quatrième et dernier volume de votre nouvelle histoire du Premier Empire qui vient d'être publié chez Fayard, Les 100 jours ou la fin du règne de Napoléon, qui aurait pu d'ailleurs se terminer en effet non pas à Sainte-Hélène, mais sur l'île d'Elbe en 1814, où il avait été envoyé en espérant évidemment qu'il n'y reviendrait pas. Une île qui était, disait Napoléon, une île de pacotille. Hein.
Oui, c'était une île pas plus grande, même pas qu'un département français, qu'un arrondissement, puisqu'elle a été, comme elle faisait partie de l'Empire français, elle était administrée par un sous-préfet. C'est une île relativement peu peuplée, 10 000 habitants à peu près, et qui avait des revenus extrêmement faibles. Et là, on touche déjà un des gros problèmes qu'allait rencontrer Napoléon sur cette île, sans grande possibilité.
Alors sur cette île dont il avait été nommé souverain par les Alliés, bon, souverain d'un département ou de la taille d'un petit département français, évidemment, c'était plus qu'humiliant, mais il avait refusé le titre, je crois, mais il avait une véritable petite cour où on retrouve quelques fidèles, mais il y a aussi quelques absents. Sa femme, son fils n'ont pas pu ou pas voulu le rejoindre, Thierry Lenz, l'aiglon, hein, oui. Celui qui était destiné à lui succéder. Et puis alors, beaucoup de ces maréchaux ont rejoint Louis XVIII, qui a rétabli la monarchie en France après son départ.
Oui, 1814, c'est un tournant pour beaucoup de dignitaires de l'Empire. Ils ont un choix à faire, soit suivre Napoléon pour aller encore plus loin dans la défaite, ce qui a été son intention à un moment donné à Fontainebleau, soit, certains le diront comme ça, privilégier l'intérêt de la France, donc se rallier à Louis XVIII. Et effectivement, les plus grands noms de l'Empire se rallient à Louis XVIII. Seuls quelques fidèles vont accompagner Napoléon à Sainte-Hélène. Le général Bertrand, qui est grand maréchal du palais, qui le suivra aussi plus tard à Sainte-Hélène. Le général Drouot, un général d'artillerie que Napoléon appelait le sage de la grande armée. Le général Cambronne, qui commande la garde impériale. Et c'est à peu près tout. Le reste à l'île d'Elbe sera composé de dignitaires, entre guillemets, recrutés localement.
Il y a quelques, parmi les retournements de veste, il y a celui de Ney, il y a celui de Soult, hein, qui se retourneront plusieurs fois leur veste, on y reviendra. Alors cette île a un drapeau, une constitution, il fait semblant de l'administrer, et cela dit, il n'y restait que 10 mois. Qu'est-ce qui l'a poussé à la quitter, à s'enfuir, parce qu'il était quand même sous la surveillance des Anglais? et à revenir en France, Thierry Lenz?
Alors, il y a trois raisons factuelles, puis une raison peut-être psychologique. Alors, commençons par la psychologique. C'est que Napoléon, qui était très fatigué en 1814, se refait une santé à l'île d'Elbe, tout simplement.
Il est en convalescence.
Voilà, c'est un Méditerranéen. Il se retrouve au bord de la Méditerranée et il reprend des forces. Il reprend des forces et pour un homme comme ça, ça veut dire aussi reprendre une partie de son ambition. Et puis sur le plan des faits, il y a un certain nombre de mauvaises nouvelles qui lui parviennent. La première, c'est que le roi Louis XVIII, qui s'était engagé à lui verser une pension de 2 millions par an pour entretenir son train de vie, en quelque sorte, à l'île d'Elbe, ne lui versera pas cet argent. Ce qui fait que le trésor de l'île d'Elbe est en faillite et Napoléon est obligé de faire ce qu'il n'a jamais fait et jamais voulu faire, c'est de puiser dans ses économies pour financer son train de vie, qui est très important. Il a gardé un train de vie d'empereur. Et puis, autre mauvaise nouvelle, c'est qu'au congrès de Vienne, pendant ce temps-là, les alliés se doutent bien que Napoléon, à 10 km des côtes du continent, ça peut représenter un danger. Et on se met à réfléchir à un enlèvement de Napoléon pour l'amener ailleurs. Alors, on parle un peu des Açores. Et puis, les Anglais ont la bonne idée. Ils disent, mais non, nous, on a une petite île dans l'Atlantique Sud.
Ils parlent déjà de Sainte-Hélène.
Et ils parlent déjà de Sainte-Hélène. Le nom de Sainte-Hélène apparaît dans les journaux dès novembre 1814.
Alors ça, évidemment, Napoléon le craint. Il apprend aussi quand même que... Enfin, on le lui dit, le régime que Louis XVIII vient de mettre en place, la première restauration, eh bien, est devenu très impopulaire. C'est vrai que les maladresses sont assez nombreuses, commises par Louis XVIII.
Voilà, c'est-à-dire que Louis XVIII a relativement bien réussi sa première restauration. Surtout, il n'y a pas eu d'épuration, il n'y a pas eu d'exécution, il n'y a pas eu d'emprisonnement, et ainsi de suite. Mais il a commis deux erreurs principales. La première, c'est de mélanger la religion avec le fonctionnement de l'État. Et ça, dans un peuple qui a fait la Révolution française, qui a subi la déchristianisation, ça ne passe pas. Et puis l'erreur majeure, c'est d'avoir, mais pour de justes raisons, maltraité l'armée. C'est-à-dire que pour faire des économies, on a licencié la moitié de l'armée, on a mis les officiers en demi-solde, ce qui a répandu dans la France entière des dizaines de milliers de mécontents qui sont allés partout disant, voilà, on est en train de brader notre gloire, on ne nous respecte plus, et ce qui a créé un mauvais état de l'esprit public, surtout dans les villes d'ailleurs.
Alors tout ça fait partie justement des raisons qui poussent Napoléon à s'enfuir littéralement, à quitter l'île d'Elbe. C'est quand même assez audacieux, il quitte de l'île d'Elbe le 26 février 1815, mais il doit tromper la surveillance des Anglais. C'est quand même parce que ce n'était pas évident.
Oui, alors il doit tromper la surveillance des Anglais qui ont quelques bateaux qui tournent autour de l'île d'Elbe, pas tellement pour le surveiller, mais enfin pour savoir ce qui se passe, etc. Puis il a la chance que le principal commissaire anglais, colonel Campbell, est amoureux d'une comtesse florentine et que assez souvent il va sur le continent pour couler des jours heureux avec sa dulcinée. Et il profite d'un des départs de Campbell pour, avec quelques vaisseaux qui sont même pas des bateaux de guerre. Hein. Il y a un bateau de guerre, tout le reste ce sont des barques, des chaloupes, etc. Et il part avec 1000 hommes. On pensait qu'il allait essayer de sortir, il y avait eu des bruits, mais tout le monde l'attendait en Italie. Et lui, il crée la surprise en débarquant en France, à Golfe-Juan, donc le 1er mars 1815.
Tandis que Louis XVIII à Paris ne prend pas très au sérieux cette aventure de Napoléon.
Je suis revenu en France. J'arrive à reprendre nos droits, les miens, les vôtres, ceux de la France. J'ai rallié la France qu'on voulait infinie. Vive l'empereur !
Votre Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Prions Dieu qu'il soit assez fou pour débarquer en France.
Évitons de dramatiser. Napoléon et sa petite escorte, un millier d'hommes, sont pas très dangereux. Encore. Monsieur le maréchal Soult, vous conserverez le commandement de la garnison de Paris. Monsieur le maréchal Ney, c'est vous qui le premier aurez à affronter l'usurpateur. Je sais que vous l'aimez.
Dans le temps, je l'aimais. Mais je promets à votre majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer.
Alors on connaît cette célèbre formule de Ney qui ne ramènera certainement pas Napoléon à Paris dans une cage de fer, mais qui va rallier Napoléon après avoir rallié Louis XVIII. Alors cela dit, on a entendu dans un premier extrait de film, dans un film de Bondarchuk, on a entendu l'accueil fait à Napoléon par les Français quand il arrive à Golfe-Juan le 1er mai. Les mots qu'on a entendus, c'est la déclaration qu'il fait, le 1er mars, pardon, la déclaration qu'il fait en arrivant sur les côtes françaises. Vous parlez d'un mythe, que quand Napoléon invoque le fait qu'il a été appelé par le peuple français, vous parlez d'un mythe, Thierry Lenz.
Oui, il n'y a pas eu véritablement d'appel du peuple. Les cris, les hurlements de joie qu'on entend là sur l'extrait de Bondarchouk, évidemment, n'ont pas eu lieu. Et en tout cas pas à Golfe-Juan, où Napoléon est resté quelques heures pour immédiatement emprunter une route totalement détournée des grands axes par les Alpes, la fameuse route Napoléon d'aujourd'hui, parce qu'il savait très bien que dans certaines provinces, il serait mal accueilli. Il avait déjà, en 1814, lorsqu'il a rejoint l'île d'Elbe, il a traversé la Provence sous les Quolibets, on a failli l'assassiner.
C'est pour ça qu'il passe pas par la vallée du Rhône.
Voilà, il passe pas par la vallée du Rhône, il remonte par les Alpes. Il y a probablement quelques complicités, en tout cas jusqu'à Grenoble, qui l'aident. Et puis, ça va tellement vite, si vous voulez, que la nouvelle n'aura même pas le temps de se répandre. Ouais. Quand Napoléon va arriver le 20 mars à Paris, les trois quarts de la France ignorent même totalement qu'il est rentré.
Alors, plutôt que de passer donc justement par la vallée du Rhône, ce qui aurait été plus logique, il emprunte ce qu'on a appelé plus tard la route Napoléon. Il passe par Digne, par Gap, par Grenoble, vous le disiez. Grenoble au sud d'ailleurs de laquelle Napoléon se heurte à un premier obstacle, un régiment de ligne dont le commandant est décidé à arrêter Napoléon, dont l'aventure aurait pu s'arrêter là. C'était le 7 mars 1815 dans le défilé de Laffray.
Je vous en conjure, abritez-vous derrière vos hommes et laissez-moi essayer de parlementer.
Avec les armes à la main, rangez-moi donc ça, Cambronne. Je reconnais leurs insignes. C'est le 5e de ligne.
Soldats du 5e de ligne, je suis votre empereur. À mon commandement, feu! Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà.
Officiers soldats du 5e de ligne, en colonne par quatre, musique en tête. Et foutez-moi ces chiffons en l'air, nom de Dieu! Le drapeau tricolore, ou rien!
Et c'est un des moments les plus célèbres de la légende napoléonienne. D'ailleurs, c'est sur la couverture de votre livre, il y a ce fameux passage où Napoléon se met en face des soldats qui s'apprêtaient à tirer sur lui et finit par les retourner, par faire qu'ils se rallient. C'est assez extraordinaire, c'est tout à fait authentique, cette scène.
On a des témoignages même pris sur le vif, une lettre d'un commerçant qui a assisté à tout ça, et ça s'est effectivement passé comme on vient de l'entendre.
Et alors ça se passera de la même manière, une fois que les premiers soldats qui avaient l'ordre de l'arrêter ne le font pas, ben, il va y avoir des défections dans l'armée de Louis XVIII qui vont se multiplier. Ce sera le cas à Grenoble, à Lyon aussi, ou alors qui est défendu pourtant par le frère de Louis XVIII, le comte d'Artois, le futur Charles X, et par un autre futur roi, le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe.
Oui. C'est Lyon, c'est un peu le passage de témoin. Vous savez, donc le Louis XVIII a envoyé son frère Charles X. Vous savez que, enfin, le futur Charles X, le comte d'Artois, a toujours envoyé beaucoup de gens faire la guerre. Lui-même n'a quasiment jamais assisté à une bataille. Et puis celle-là, il ne va pas la livrer non plus, parce que à un moment donné, l'état-major de Lyon lui dit: écoutez, on va faire couler le sang et on gagnera pas. Et donc le comte d'Artois prend la décision qu'il a toujours prise, c'est-à-dire qu'il se sauve. Il laisse le maréchal MacDonald, qui lui aussi va échapper de peu à la capture par les troupes napoléoniennes. Et à partir du moment où Napoléon entre à Lyon, j'allais dire, les carottes sont cuites pour Louis XVIII, même si on espère encore dans le maréchal Ney. Mais tout le monde a bien compris, et on l'a dans des témoignages de royalistes, là aussi sur le vif à Paris, tout le monde a compris que Napoléon va remonter jusqu'à Paris.
À Lyon, Napoléon se comporte comme s'il était déjà remonté sur le trône, parce qu'il publie les premiers décrets, c'est-à-dire qu'il annonce au fond ce qu'il va faire, ou ce qu'il est sur le point de faire, une fois arrivé à Paris et au pouvoir.
Oui, il l'annonce dans toute une série de décrets qui ont une couleur... dont la plupart de ces décrets a une très grande couleur révolutionnaire. Et c'est un des pièges que Napoléon va se tendre à lui-même pour la suite. Et il décide de la dissolution des chambres, il décide la confiscation des biens des Bourbons, il décide de rayer de la liste des maréchaux tous ceux qui l'avaient trahi en 1814, il décide des mises en arrestation de gens, notamment de Talleyrand, qui ne sont pas en France à ce moment-là, mais il essaie de montrer que, fils de la Révolution, il revient et que cette fois-ci, il y aura la grande alliance entre la nation et le trône qu'il avait déjà prôné en 1804, mais qu'il avait un petit peu oublié pendant les 10 ans de règne.
Il se pose aussi presque un peu en républicain, enfin en tout cas comme en gardien de la Révolution.
Oui.
Il est plus à gauche, on dirait aujourd'hui, qu'il ne l'était du temps de l'Empire.
Oui, bien sûr. Il essaye, comme on dirait aujourd'hui, de ratisser le plus large possible. C'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il a le soutien de l'armée, qui est d'ailleurs même son soutien essentiel pendant la remontée vers Paris. Il lui faut maintenant le soutien du peuple, donc il annonce toute une série de mesures. D'ailleurs, mesures sur lesquelles il sera obligé de revenir pendant les 100 jours, parce que juridiquement impossible, les confiscations, rendre les biens qui avaient été, les biens nationaux qui avaient été rendus au clergé, et ainsi de suite. Toute une série de choses qui étaient juridiquement impossibles, sur lesquelles il sera obligé de revenir. Ce qu'il veut, c'est marquer les esprits, montrer qu'il est le fils de la Révolution, montrer qu'il a changé, qu'il n'est plus le partisan d'un régime autoritaire. Et tout ça, c'est un piège que lui-même est en train de se dresser contre son propre pouvoir et qui va lui coûter cher dans les semaines qui viennent.
Ce qui lui permet quand même, dans l'immédiat, des ralliements. Il remonte un peu plus l'eau. Alors, Ney, qu'on avait envoyé pour aller le chercher dans une cage de fer, se rallie à lui, finalement. Et il y a un pamphlet, d'ailleurs, qui raconte toute cette aventure, la façon dont Napoléon est perçu par les Français au fur et à mesure qu'il avance pendant ce qu'on a appelé le vol de l'aigle. Alors, je cite ce pamphlet, c'est assez drôle. Alors, ça, c'est quand il arrive, donc, à Golfe-Juan. Juan, le monstre a quitté l'île d'Elbe. Le brigand a débarqué dans le golfe de Cannes. L'usurpateur est entré à Grenoble. Le Corse a reçu les autorités à Lyon. Bonaparte voit son armée renforcée par celle du maréchal Ney. Le rival des Bourbons a revu à Fontainebleau cette chambre où il signa son abdication. Et ça se termine comme ça. Sa Majesté impériale couchera ce soir aux Tuileries. Alors aux Tuileries se trouve Louis XVIII. Louis XVIII qui est vraiment abandonné par tout le monde. D'ailleurs, Napoléon lui a même donné, après que Ney ait rejoint Napoléon, Napoléon a envoyé à Louis XVIII cette lettre. « Mon beau-frère, inutile de m'envoyer des soldats, j'en ai assez. » Et le beau-frère, donc Louis XVIII, se retrouve tout seul et contraint, n'arrivant pas à arrêter Napoléon, contraint finalement de quitter Paris dans la nuit du 19 au 20 juin, quelques heures avant l'arrivée de Napoléon.
Votre Majesté, Napoléon vient juste d'arriver à Fontainebleau. Il marche sur Paris.
Alors tout est fini, n'est-ce pas? À lui tout seul, il a repris la France. Qui eût pu l'imaginer?
Votre Majesté, il faut partir sur le champ.
Ah, il est à Paris, l'empereur est là! La France va revivre! Vive la France! Le héros est de retour!
Colincourt, Molien, Molly, Boucher. Venez me voir dans une demi-heure. Nous avons un petit problème à résoudre.
Lequel, sire?
Lequel? Quand la France se réveillera demain matin, il faut qu'elle ait un gouvernement. Monsieur le maréchal Soult, je vois que vous avez reçu mon invitation.
Oui, sire.
Vous n'êtes plus ministre de Louis XVIII, d'après ce que je crois savoir.
Cela va de soi, sire. Cela va de soi, Soult.
Silence! Je vous nomme chef d'état-major. Vous acceptez?
J'accepte, sire. J'en suis heureux.
Tout est bien qui finit bien.
C'est donc l'arrivée de Napoléon à Paris le 20 mars, j'ai dit le 20 juin, c'est le 20 mars 1815. Alors extraordinaire les retournements de veste qui se produisent, le record c'est peut-être celui de Soult, parce que Soult c'est quand même quelqu'un qui disait du temps, qui avait servi Bonaparte, enfin Napoléon, puis qui avait rejoint Louis XVIII et qui disait à ce moment-là, qui parlait de Bonaparte, un usurpateur et aventurier, et puis qui brusquement se retrouve devant Bonaparte ou Napoléon le 20 mars.
Soult aura par la suite une carrière là aussi extrêmement brillante, puisqu'il va continuer à survivre sous la Seconde Restauration, puis il va devenir président du Conseil de Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. C'est donc un personnage qui avait la veste souple, si l'on peut dire. Mais il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est que faire dans ces cas-là? C'est-à-dire que Napoléon arrive dans une capitale qui est époustouflé, si l'on peut dire. Le roi part le matin, Napoléon rentre dans la nuit qui suit. Ouais. Tout ça se fait par surprise, en un temps record. 20 jours entre Golfe-Juan et Paris. On n'a pas eu le temps ni de prendre
sans une goutte de sang.
Sans une goutte de sang. Alors, il y a eu Directement sur la route de Napoléon, il n'y en a pas eu, mais il y a eu des manifestations réprimées dans Paris par les troupes royalistes. Il y a eu quelques morts, mais enfin, c'est vrai qu'effectivement, Chateaubriand a raison, c'est la conquête d'un pays par un seul homme. Quoi,
Chateaubriand qui était royaliste.
Qui était royaliste, qui part d'ailleurs avec Louis XVIII et va rester avec lui. Mais si on se met à la place de ces dignitaires, on se dit que faire d'autre ? Que faire d'autre ? Alors, il y en a qui veulent assurer leur carrière, mais il y en a un certain nombre aussi qui ont un peu l'intérêt national chevillé au corps. Et même dans les partisans de Napoléon, on va trouver des gens qui se doutent bien que cette aventure ne pourra pas durer longtemps, mais qui se rallient quand même à lui, un peu pour l'intérêt national, beaucoup plus que pour le leur.
Il y a le cas de Benjamin Constant qui, le 7 mars, dans le journal des débats, c'est-à-dire pendant le vol de l'aigle, disait de Napoléon « l'homme teinté de notre sang ». Or, c'est à lui que Napoléon confie le soin de rédiger une nouvelle constitution et Benjamin Constant accepte. Alors cette nouvelle constitution, ce nouveau régime qui durera 100 jours, même moins de 100 jours, c'était quoi Thierry Lenz ?
C'était pour Napoléon...
Ce qu'on appelle l'acte additionnel à la constitution de l'Empire, je crois.
Oui, c'était pour Napoléon une façon de tirer les leçons de la première restauration. Au moment de son retour, Louis XVIII n'a pas rétabli l'ancien régime, contrairement à ce qu'on peut dire parfois ou on peut entendre parfois. Il a libéré la presse, il a libéré les prisonniers politiques et il a donné une constitution pré-parlementaire, la charte de 1814, qui a relativement bien fonctionné avec des chambres qui avaient le droit, sous certaines conditions, d'interpeller le gouvernement et je dirais, et de le contrôler. Et quand Napoléon rentre à Paris, il se rend bien compte qu'il ne peut pas remettre en vigueur les vieilles constitutions impériales qui étaient des constitutions un peu autoritaires, qui donnaient tout le pouvoir au chef de l'État. Donc il a promis pendant sa remontée qu'il allait tenir compte de tous ces changements et il est bien obligé de le faire en arrivant. Et pour le faire, il appelle le penseur libéral de ce moment-là, donc Benjamin Constant, qui effectivement l'a copieusement insulté pendant le retour de l'île d'Elbe, s'est ensuite caché pendant quelques jours, mais comme tous ces gens se connaissaient, Constant était un ami de Joseph et de Lucien Bonaparte, on est allé discuter avec lui et il a fait savoir qu'il était disponible. Et donc Napoléon s'est là aussi un peu laissé faire et il a laissé Constant rédiger cette constitution, ce qui a entraîné des conséquences importantes sur le plan politique, parce qu'on a organisé des élections législatives que Napoléon a perdues. Il a perdu ses élections législatives, ce sont les libéraux qui sont arrivés en masse à l'Assemblée. Donc déjà, il avait des ennemis à l'intérieur. Deuxième échec, on l'oblige à organiser des municipales, les premières élections municipales de l'ère moderne au suffrage universel. Il les perd, les électeurs reconduisent les maires royalistes. Et puis, alors, il organise le plébiscite outil napoléonien par excellence. Et il le perd aussi, moins de 20% de participation.
Mais il le gagne, 90%
voilà,
de oui. Plus de 90%, mais effectivement...
20% de participation, ouais. Alors qu'habituellement, on était plutôt aux alentours de 40-50% dans les autres plébiscites organisé par lui. Donc on voit bien, pour revenir sur la question que vous posez tout à l'heure, soutien populaire sûrement pas, en tout cas par rapport aux indicateurs qu'on a, qui sont ceux-là, mais on en aura d'autres, les contributions qui ne rentrent pas et la conscription qui fonctionne assez mal.
Cela dit donc, entre son arrivée le 20 mars et Waterloo, il y a très peu de temps, en fait le vrai problème pour Napoléon n'est pas tellement, ce ne sont pas tellement les problèmes intérieurs, c'est ce qui se passe à l'extérieur, car avant même qu'il arrive à Paris, pendant le vol de l'aigle, il a reconstitué contre lui, en fait, la coalition qu'il avait renversée un an plus tôt.
Oui, Napoléon, d'ailleurs, il le dira lui-même à Sainte-Hélène, il a commis une erreur, c'est qu'il a débarqué en France au moment où le Congrès de Vienne était encore réuni. Et quand on apprend son débarquement, Talleyrand, encore lui, réussit à convaincre les puissances de publier une déclaration qui mette Napoléon hors la loi. Et donc, on fait marcher les armées vers la France.
Ils ont osé. Ils me dénoncent comme ennemi de l'humanité. Toute l'Europe part en guerre contre moi. Pas contre la France, mais contre moi.
Quelle nouvelle attend de Wellington ?
Toujours à Bruxelles, sire.
Toujours avec le vieux Blücher ?
C'est eux qui nous déclarent la guerre. On le leur fera payer.
Oui, on le leur fera payer, et puis je signerai la paix sur le cadavre du duc de Wellington. Ce sera la plus belle des paix.
Les armées de Wellington et de Blücher se sont séparées, sire.
Séparées ?
Oui, sire.
Je me demande ce que l'histoire dira de ces hommes. Voilà mon plan. Nous allons surprendre Blücher à droite et après nous fonçons sur Wellington. Soult.
Oui, sire.
Une offensive est claire. Je les désorganise. La victoire dépend de cette première bataille, comme à Marengo.
Et cette première bataille, ce sera aussi la dernière, Thierry Lenz. Ce sera Waterloo, une campagne très brève, à peine 4 jours. Il rentre en Belgique. Et il y a cette bataille, indécise d'ailleurs au début, Napoléon a bien failli la gagner.
Oui, c'est-à-dire que s'il n'avait eu que les Anglais face à lui, il l'aurait probablement gagné. probablement une victoire à la Pyrrhus, car les Anglais ont bien défendu, si on peut dire. Mais évidemment, il y avait les Prussiens pas loin, et bon, il serait un peu long d'expliquer la manœuvre, mais Napoléon n'a pas pensé que les Prussiens viendraient à l'aide.
D'attendre Grouchy, ce sera
voilà,
plus cher.
Voilà. Et donc les Français sont là, véritablement, c'est une lourde défaite qui est devenue depuis, dans l'inconscient français, une défaite glorieuse, hein, grâce à la garde, grâce à la légende, grâce aux dictées de Napoléon à Sainte-Hélène, qui raconte sa bataille de Waterloo, qui fait autorité pendant plus d'un siècle. Et donc, mais c'est une telle défaite qu'au moment où Napoléon rentre à Paris, les chambres qui n'attendaient que ça pour discuter avec lui, là, cette fois-ci, le font chanter et exigent son abdication. Et c'est une abdication, évidemment, due à la défaite extérieure qui est consommée le 22 juin. C'est une abdication parlementaire. C'est la chambre qui fait abdiquer Napoléon.
En faveur de son fils, quand même.
Alors, lui abdique en faveur de son fils, mais on dit toujours que les chambres ont proclamé Napoléon II. C'est faux. Les chambres ont refusé de le proclamer, et c'est la légende napoléonienne qui a voulu ça par la suite, mais Napoléon abdique en faveur de son fils, mais dès qu'il a signé son abdication, il dit à son entourage, de toute façon, vous aurez à vous débrouiller avec les Bourbons. Il a déjà compris que...
Alors lui part à Rochefort, il espère partir en Amérique, en fait, il finit par se rendre aux Anglais, et cette fois-ci, les Anglais, pas fous, après ce qui s'est passé à l'île d'Elbe, l'envoient beaucoup plus loin, là où d'ailleurs, il était prévu qu'on l'envoie initialement, c'est-à-dire à Sainte-Hélène, d'où cette fois-ci, il ne pourra pas sortir.
Cette fois, il ne pourra pas sortir, mais c'est, encore une fois, il va saisir cette chance-là parce que c'est lui qui va dicter l'histoire, y compris l'histoire des 100 jours, aux générations futures.
Ces 100 jours, justement, on a l'impression, au fond, qu'ils ont plus contribué à la légende napoléonienne, parce que le bilan pour la France, il n'est pas brillant.
Il est même franchement catastrophique. Hein. On réduit le territoire, on occupe le territoire, on devait l'occuper pendant 5 ans, finalement, on l'occupera pendant 3 ans. Il y a une indemnité de guerre de 700 millions qui est donnée. En gros, on a calculé, l'historien Pierre Branda a calculé que les 100 jours avaient coûté 2 milliards de francs à la France, qui est une somme énorme. Hein. À l'époque, le budget de l'État est moins d'un milliard. Enfin, c'est 700, 800 millions. Donc, vous voyez, une dette énorme. Et puis, l'occupation. Et surtout, la renaissance des conflits intérieur français que Louis XVIII avait quand même réussi à bien apaiser. Et donc, oui, un bilan assez négatif sur le moment, mais grâce à Sainte-Hélène, grâce à ses dictées, grâce au mémorial de Sainte-Hélène, grâce à Victor Hugo, grâce à Stendhal, grâce à tous ceux qui s'ennuyaient après Napoléon, c'est devenu le mythe fondateur de la légende napoléonienne.
Vous en parlez comme si Napoléon n'y croyait pas lui-même à ses 100 jours et à son maintien au pouvoir.
Je me suis posé la question, effectivement, mais c'est vrai qu'on peut penser que, notamment vers la bataille de Waterloo, il était très fatigué. Je crois qu'il n'y croyait pas. C'était le baroud d'honneur.
Merci Thierry Lenz. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les 100 jours ». C'est le 4e et dernier volume de votre nouvelle histoire du Premier Empire, publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon d'Yves Simonneau avec Christian Clavier, disponible en DVD chez France 2 Vidéo, et Waterloo de Sergueï Bondartchouk, édité en DVD aux éditions Columbia Trista Home Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Gaël Braouzek et Mathias Alléon. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilac.